Bien, bonjour à tous. Donc, c'est un grand plaisir, un grand honneur pour moi d'être ici ce soir, puisqu'il y a de très nombreuses années, au millénaire dernier, j'ai eu l'occasion de suivre des cours dans un amphi bien moins neuf que celui-ci, hein, c'est les cours d'Yves Coppens. Et donc, je remercie le professeur Hublin de m'avoir invité pour ce séminaire, conférence, présentation, donc sur un domaine que j'apprécie et que j'en ai fait mon métier particulièrement, donc l'étude des faunes du Pléistocène. Et vous allez voir qu'on va très très vite cibler sur les Néandertaliens, puisque c'est quand même notre sujet d'étude principale. Et le but de cette présentation, c'est de vous montrer un petit peu quelques facettes. Hein, en quelques dizaines de minutes, il est impossible de balayer l'ensemble de la diversité et de l'unicité quand même du monde néandertalien à l'échelle européenne. Mais vous allez voir qu'il y a quand même quelques grandes constances. Et le but aussi de ma manœuvre, c'est d'opérer en deux temps, puisque c'est aussi un petit peu comme ça qu'on procède. Dans un premier temps, donc l'approche naturaliste, donc je suis ce qu'on appelle un archéozoologue, donc j'étudie les relations entre l'homme et l'animal durant les temps préhistoriques en l'occurrence, mais dans un premier temps, il faut déterminer ces animaux et puis identifier les paysages, les milieux, les climats qu'ils permettent de reconstituer et également de dater les gisements, mais là ça ne sera pas l'objet précisément de cette présentation de ce soir. Et puis donc ensuite on passe à une deuxième approche qui est l'approche, je dirais, paléethnographique. On va essayer à partir de ces animaux de reconstituer les comportements des hommes, comportement de subsistance, vous verrez, en relation étroite, bien sûr, avec les collègues préhistoriens qui travaillent sur les industries lithiques, les armes ou les outils que l'on va retrouver en grande quantité, souvent beaucoup plus que les restes osseux. Et donc, en plus, vous allez voir qu'il y a beaucoup de liens, une bonne complémentarité avec la présentation précédente de Jean-Jacques Hublin. Donc, vous allez voir qu'il y a vraiment un lien assez intéressant. On va commencer tout de suite. OK. Donc on va revenir. Voilà. Donc le plan très simple de mon séminaire, ça sera donc dans un premier temps de présenter assez sommairement, mais parce que c'est important et intéressant, la chronologie, la paléocologie et la paléogéographie du Pléistocène en Europe, Pléistocène moyen supérieur. Vous allez voir qu'il y a un certain nombre d'éléments que vous avez déjà vus précédemment. Ensuite, un petit point sur les écosystèmes du Pléistocène moyen supérieur, point important également, ils sont totalement, en grande partie différent de ce qu'on a actuellement, que ce soit pendant les périodes tempérées interglaciaires ou les périodes glaciaires, et également les périodes de transition. Et puis bien sûr, entrer entre guillemets dans le vif du sujet de cette présentation, donc parler de la grande faune mammalienne et leur rapport sur la constitution des paysages, le but de la manœuvre étant ensuite de replacer les Néandertaliens essentiellement dans ce monde naturel qu'ils ont vécu, qu'ils ont connu et dans lequel ils ont vécu pendant 400 000 ans, comme vous l'avez évoqué Jean-Jacques Hublin. Là, on va restreindre après sur quelques exemples qui sont, à mon avis, très importants pour vous montrer comment Néandertal, presque au jour le jour, a réussi à survivre, entre guillemets, entre très grosses guillemets, puisque la notion de survie est totalement inadaptée, comme vous le verrez, mais comment a réussi à exister, vivre dans son environnement, sans trop de problèmes, visiblement, pendant cette longue durée. Et donc on finira donc par cette grosse partie sur les relations quelques relations entre Néandertal et la faune. Donc on va commencer tout de suite rapidement par fixer le cadre global de mon intervention, avec un petit rappel simplement pour vous montrer, là c'est une échelle des temps stratigraphiques du plus ancien, avant l'apparition de la vie, jusqu'à actuellement nous sommes ici le sommet de l'échelle stratigraphique, ça se lit comme ça, hein, de haut en bas, sur quatre colonnes. Ici, c'est bien sûr totalement dilaté pour la période récente, mais donc nous vivons, nous, géologiquement, dans le quaternaire, et en particulier, donc, dans la dernière période, donc, nous sommes actuellement, d'un point de vue géologique, dans l'interglaciaire Holocène, et d'un point de vue géologique, à la fin de cet interglaciaire. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Nous sommes actuellement complètement inclus dans les cycles que vous a présenté Jean-Jacques Hublin, et que je vais également vous rappeler. Donc, nous sommes ici, nous, à gauche, donc le stade isotopique marin 1, tempéré, les paires étant les périodes glaciaires. Et donc, moi, j'ai restreint mon intervention à partir de 400 000 ans, qui correspond à peu près au développement de ces cycles glaciaires-interglaciaires d'environ 100 000 ans, hein, qui sont parfaitement bien illustrés. Et le point important que vous avez ici, la température moyenne observée, calculée et mesurée à partir des carottes de glace qui ont été faites au Groenland ou en Antarctique, qui permettent d'avoir donc en haut des périodes d'optimum climatique tempéré, et puis en bas des périodes de froid. Vous avez ici donc un petit peu comme vos robinets en rose, c'est du chaud, en bleu, c'est du froid. Et donc vous voyez déjà, premier point, c'est que les périodes tempérées sont beaucoup plus rares que les périodes glaciaires. Et point important aussi, c'est que ces variations du climat, de la température, vont immédiatement avoir un effet sur l'évolution du paysage, en l'occurrence de la végétation. Et vous avez ici le développement des arbres, qui sont des bons marqueurs climatiques. Quand vous allez avoir en fait, des périodes tempérées, vous allez avoir un climat beaucoup plus humide, et les arbres ont besoin d'énormément d'humidité pour croître. Et donc, ils vont se développer de manière assez rapide. Vous voyez des pics qui se développent, qui sont presque quasiment toujours corrélés avec les maximums tempérés. Donc, on va simplifier, mais c'est un petit peu les choses qui apparaissent. Période froide, on en parlera tout de suite après, quel type de paysage. Période tempérée, on voit par contre qu'immédiatement, on va avoir affaire à une forêt. Dans nos régions d'Europe occidentale, ça sera la forêt caducifoliée qu'on connaît comme actuellement, même si, bien sûr, elle a un visage totalement différent à cause du développement de l'anthropisation, de l'urbanisme et de la végétation agricole. Donc, point important. Voilà, donc cette variation extrêmement cyclique, très importante, dans laquelle vont s'inclure les occupations humaines. On a ici donc une échelle de temps dans laquelle on a inclus ces oscillations climatiques, les datations. Hein, vous voyez que depuis environ 400 000 ans, on a des choses qui sont assez cycliques. Et puis, bien sûr, l'évolution culturelle et anthropologique. Donc ça, un point important, d'une part, c'est que cette évolution va être totalement concomitante, comme vous verrez dans une diapo par la suite, avec les phénomènes climatiques, ce qui est tout à fait normal. Nous avons affaire à des hommes qui sont des chasseurs-cueilleurs nomades, pas uniquement toujours chasseurs, pas forcément toujours nomades, mais en tout cas à l'échelle des temps géologiques, c'est le cas, et à l'échelle même des temps climatiques. Ils vont constamment migrer, ce que vous a parfaitement présenté Jean-Jacques Hublin précédemment. On a affaire à des choses extrêmement mobiles, et ça, ce n'est pas forcément évident à avoir présent à l'esprit. On a un petit peu tendance à être assez fixiste, nous, avec notre vision d'homme moderne, européen du XXIe siècle, mais il faut absolument prendre du recul à la fois géographiquement et aussi chronologiquement. Donc là, vous avez un zoom sur le dernier cycle avec cette période tempérée du stade isotopique 5e, qu'on appelle l'Éhémien, du nom du site où il a été décrit en un premier temps, à partir de données des paysages forestiers. Donc une période très tempérée, 2 à 4 degrés plus chaude que notre période actuelle. Et puis ensuite, donc, une série de dégradations climatiques qui va venir vers environ 20 000 ans, vers le maximum glaciaire, avec ces températures par contre extrêmement froides, et ce développement du glacier continental, l'Atlantis, qui va descendre jusqu'au sud de l'Angleterre, donc avec des phénomènes de réponse des paysages, des faunes et donc des chasseurs complètement inféodés à ces variations climatiques. Point, donc encore une carte, désolé, mais celle-ci sera juste informative, pour montrer que l'Europe, et la grande Europe entre guillemets, ne se scinde pas au niveau nord-sud, pas tellement, mais est-ouest aussi, avec cette vaste zone à faible altitude qui part depuis la grande plaine russe, l'Europe nord et puis l'Europe du nord-ouest avec ensuite la façade atlantique où on a quasiment que des sites en basse altitude, très souvent des sites de plein air. On n'est pas forcément dans toutes ces zones, dans des zones karstiques, sauf dans des zones particulières comme en Belgique par exemple, le long de certaines rivières. Et donc on a aussi un monde méditerranéen qui va servir de monde refuge pendant les périodes froides, hein, imaginez donc toute cette partie-là complètement désertée et les zones périglaciaires également. Donc ça, c'est un point majeur, c'est en fait les implantations humaines vont être afféodées à ces variations de climat, mais également à cette topographie que vous avez déjà vue précédemment. Une carte qui évoque ce qu'on a vu aussi, mais là, elle est très intéressante parce que Jean-Jacques vous l'a bien décrit, donc avec ces phénomènes de changement de l'appel géographique qui sont aussi très, très importants. On a aussi tendance à voir ce fixisme dans les conditions actuelles. Mais en effet, ces conditions-là ont dû être très souvent le cas pendant les derniers 400 000 ans, en tout cas, avec donc développement des calottes glaciaires, rappelez-vous, plusieurs cycles, le 12, le 6 en particulier, le 4, et puis ensuite le 2, où vous allez avoir ce phénomène de descente, de captation de l'eau, en fait. Donc la mer du Nord demeure uniquement dans une petite partie au sud de sa zonation actuelle. La Manche disparaît totalement, et vous voyez, les lignes de rivage vont très très loin, plus de 200 km au large de la Bretagne, et toute cette zone va être exondée et permettre donc la présence d'animaux et puis de restes humains. Donc une petite reconstitution d'artistes ici sur le détroit du Pas-de-Calais, justement, actuellement et pendant les périodes tempérées et puis pendant les périodes glaciaires, une zone exondée où vous allez avoir la possibilité de présence de troupeaux d'animaux, de grands herbivores, puisque c'est surtout eux qui vont être évoqués aujourd'hui. Donc voilà ce qui explique aussi que dans la mer du Nord actuellement, quand les pêcheurs néerlandais font du dragage avec des chalutiers, eh bien, ils ressortent presque de plus en plus d'ossements que de poissons plats. Du mammouth, ici une mandibule de félin à dents de sabre, et puis aussi un crâne de néandertalien qui a été trouvé au fond de la mer du Nord, ce qui ne veut pas dire que les hommes étaient amphibies à l'époque, mais qu'on était en pleine période glaciaire. La Manche ou la mer du Nord avait complètement régressé, et donc on était dans une zone découverte, exondée, dans laquelle les animaux existaient, et les hommes venaient aussi chercher leur gibier dans ces zones-là. On passe tout de suite à une reconstitution du cadre, vraiment, du décor dans lequel ont évolué nos chers néandertaliens pendant plusieurs centaines de milliers d'années, donc Pistocène moyen et supérieur, avec donc tout de suite une représentation claire de ce qu'on a pendant les périodes interglaciaires. Les choses sont assez bien identifiées maintenant, je pense aussi pour vous. Donc une zone de forêt extrêmement importante, sans présence humaine. Nous serions actuellement dans une forêt dense relativement développée, mais quand même avec des zones de prairies assez développées et donc avec une mixité de ces paysages qui va être variable suivant la topographie et les périodes. Pendant les périodes froides, l'image que l'on en a, qui est véhiculée bien sûr par pas mal de dessins animés, de films, dans l'état d'esprit général, voilà, ce sont des déserts glacés dans lequel auraient évolué ces troupeaux d'herbivores, troupeaux de plusieurs centaines de milliers d'individus. Pensez aux bisons, par exemple, nord-américains, qui sont les descendants des bisons des steppes, par exemple. Et en fait, donc, ici, vous avez un mammouth. Un mammouth, c'est 500-800 kg de fourrage par jour, un individu. Il est bien évident que dans un désert glacé comme celui-là, qui correspond actuellement aux zones vraiment très boréales, il n'aurait jamais pu exister, donc il aurait soit mort, soit il serait mort, soit il aurait été obligé de migrer. Et donc, ceci a amené les gens à renier cette idée des paysages glaciaires et au contraire, de prouver, et puis parce qu'on a les documents qui nous prouvent, les pollens, les contenus stomacaux, par exemple, des animaux, des mammouths en particulier, qu'on a retrouvés congelés en Sibérie. Et en fait, le paysage assez typique des périodes glaciaires, pas des maximums, mais des périodes de transition et puis des périodes où on avait affaire donc à un développement modéré entre guillemets du froid, eh bien c'est des steppes comme actuellement on a en Asie centrale, donc en Asie centrale et même encore en Europe orientale, pensez à la Crimée, pensez à l'Ukraine, etc. Donc imaginez des centaines de kilomètres, de milliers de kilomètres carrés couverts par des graminées, par des herbes assez basses, très très peu d'arbres, surtout des arbres nains au niveau généralement des cours d'eau, là où il y a un peu plus d'eau. Donc la particularité de ce climat qui est beaucoup plus continental qu'actuellement, c'est d'avoir une différence de saisonnalité extrêmement importante. L'hiver, il n'y a plus rien à manger, les troupeaux d'animaux vont migrer, donc on va avoir des phénomènes saisonniers extrêmement marqués pendant les périodes glaciaires. Et l'été, la végétation va se développer et les herbivores vont donc revenir coloniser le milieu suivi par les carnivores et les autres prédateurs que sont bien sûr les néandertaliens. Et donc vous avez ici une représentation, une petite famille de rhinocéros laineux déambulant dans cette steppe qui a été décrite à la fin des années 60 par un paléontologue, un zoologue américain, Guthrie, qui l'a appelée la steppe à mammouth de par son intégrité végétale et de par l'animal emblématique de ces périodes glaciaires, le mammouth. Voilà donc ce qui est déjà à retenir. Et donc, ce qui est aussi assez incroyable, ce qui n'a plus aucun équivalent actuel, c'est l'extension géographique de cette steppe à mammouth pendant les périodes froides, qui est donc présente depuis l'extrémité, ici c'est l'Europe occidentale, donc on va dire l'extrémité occidentale plus loin que vous ayez, après vous êtes dans la mer, jusque tout le nord de l'Eurasie, et puis le détroit de Bering, qui pendant les périodes froides était exondé, permettait le passage en Amérique du Nord. Et on retrouve par exemple des mammouths jusqu'au nord du Mexique, des bisons des steppes, des carnivores comme le lion des cavernes. Le seul animal qui ne soit pas similaire entre l'Amérique du Nord et l'Eurasie, c'est le rhinocéros laineux qui n'a pas réussi à passer, peut-être pour des raisons d'adaptation alimentaire, comme vous verrez tout de suite après. Mais sinon, donc on a une grande intégrité à la fois zoologique, paléontologique et puis végétale entre toutes ces zones. Donc imaginez actuellement une zonation comme cela ne serait absolument pas possible. Et cette zonation particulière a permis, vous voyez ici, donc c'est pendant le Pléistocène, pendant la période froide, telle que l'a décrit Guthrie, cette espèce de plaide, de patchwork de biotopes, donc il va permettre une plus grande diversité que dans les zones boréales actuelles, donc avec beaucoup d'animaux adaptés à différents types de végétation. Et on l'oppose par rapport à la végétation latitudinale actuelle que vous connaissez sûrement, Donc avec une zonation des biotopes bien plus restreinte, avec une diversité végétale extrêmement limitée, donc limitant elle-même le nombre d'herbivores. Pour vous montrer une comparaison, en fait, on a essayé de voir pendant un interglaciaire pléistocène ici la richesse en faune grand mammifère uniquement et mammifères de taille moyenne, petits carnivores et grands rongeurs. Et ici, c'est l'Holocène actuel, encore une fois, sans intervention humaine. Donc vous avez ici par groupe alimentaire. Ici, vous avez en fonction de la masse, donc les animaux, les très grands herbivores comme les éléphantidés, les rhinocéros, etc., puis les tout petits sont là. Et vous voyez donc cette gigantesque diversité potentielle qu'on retrouve parfois dans les gisements en intégralité, parfois uniquement certaines espèces, qui vous démontre que le monde pléistocène, que ce soit en période froide ou en période tempérée, était en fait une espèce de dépit de cocagne, une espèce de garde-manger permanent dans lequel les Néandertaliens, comme ça vous a été précisé précédemment, relativement peu nombreux, avec peut-être aucun contact ou très peu de contact avec les lointains voisins, peut-être à des kilomètres ou des centaines de kilomètres ou des milliers de kilomètres de là. Donc, ils vivaient au milieu de cette gigantesque biomasse. Et donc, actuellement, nous n'avons qu'une vision très tronquée et très limitée de cette diversité animale, végétale et donc aussi humaine, mais qui, a priori, n'a rien à voir avec une intervention humaine. On pense que c'est ces changements climatiques à la fin de la dernière période glaciaire qui ont entraîné une disparition, un filtre dans lequel beaucoup d'animaux n'ont pu résister. Voilà donc cette représentation, avec aussi cette pulsation qui vous a été évoquée précédemment, qu'on retrouve, nous, dans les déplacements de faune, avec, ici, vous avez toujours le même système. Oula, j'ai été trop vite. Voilà, donc là, les pulsations, donc les zones refuges méditerranéennes, Espagne, Italie en grande partie, qui vont servir donc de zones refuges pour la végétation interglaciaire et les animaux adaptés à cette végétation, et puis la zone refuge sibérienne pour les périodes glaciaires et la steppe. Et en fait, vous allez assister pendant au moins depuis 600 000 ans, mais de manière très nette depuis 400 000 ans, à des oscillations à grande échelle, à l'échelle climatique, mais parfois à plus petite échelle, à quelques milliers d'années, ce qui est beaucoup à l'échelle humaine, mais très très peu à l'échelle climatique et encore moins à l'échelle géologique. Donc pendant les périodes, enfin au début des périodes interglaciaires, vous avez donc une remontée de la végétation arborée, suivie par les animaux qui sont inféodés, et donc vous avez une régression de la steppe, et les animaux adaptés à ces paysages régressent vers l'est de l'Eurasie. Donc aussi, il faut avoir une vision extrêmement large de ces phénomènes migratoires. Et inversement, début glaciaire, régression parce que l'assèchement du climat entraîne la régression de la forêt, donc les zones, les espèces forestières vont se réfugier dans les zones méditerranéennes, et puis vous avez la steppe qui vient recoloniser donc les herbacées, les graminées, etc. Donc cette zone-là, au pied des glaciers, et vous avez donc les faunes qui reviennent. Et donc vous avez ce mouvement pulsatoire, donc cyclique, qui est mis en évidence pendant au moins 600 000 ans ou à 400 000 ans de manière certaine dans toute l'Eurasie, et en particulier bien sûr en Europe où on a bien pu mettre en évidence ces phénomènes. On va attaquer tout de suite donc sur la grande faune et son outil principal qui sert à reconstituer les paysages. Je l'ai déjà évoqué entre l'interaction entre les herbivores et les végétaux à laquelle ils sont habitués, qu'ils sont adaptés à consommer ou les milieux dans lesquels ils peuvent se déplacer. Vous allez vite comprendre pourquoi, enfin j'espère. Donc déjà, je vous parlais de cette grande diversité. Vous avez ici un inventaire de l'ensemble des mammifères que l'on peut retrouver actuellement, hein, entre les plus primitifs, qui bien sûr sont plutôt aux antipodes actuellement, et les plus évolués entre guillemets. Et vous voyez que ici, les pois verts correspondent aux animaux qu'on va rencontrer pendant le Pléistocène, hein, depuis les rongeurs, les carnivores, les pinnipèdes. Donc ici, donc tout le groupe des ruminants, des ongulés, etc., et puis d'autres animaux, les proboscidiens. Donc tout ça, ça forme le fond commun pendant les périodes tempérées, pendant les périodes glaciaires, dans toute l'Eurasie, mais en particulier, on va restreindre ça à l'Europe de manière générale, et puis vous allez voir qu'après, on va encore plus zoomer pour voir les choses de manière à l'échelle plus humaine. Donc retenez bien ça, donc cette gigantesque diversité animale qu'on a du mal à estimer actuellement quand on comparerait avec des milieux identiques qui ne le sont pas d'ailleurs dans notre paysage, dans nos paysages et notre conception actuelle. Alors, on peut regrouper parfois de manière un petit peu, je dirais rapide, mais enfin globalement ça marche, même si vous avez parfois des animaux qui vont être un petit peu plus gênants, mais vous avez des bons marqueurs écologiques, comme on dit. C'est-à-dire des animaux que vous allez rencontrer dans des gisements, sous forme de fossiles, bien sûr, qui vont vous permettre de dire, quand on arrive à bien les identifier, eh bien là, on est plutôt en période tempérée ou là, on est plutôt en période glaciaire. Et vous avez ici les animaux, je dirais, typiques et tout à fait récurrents de tous ces interglaciaires pléistocènes. Donc certains vous semblaient un peu exotiques, mais donc jusqu'à il y a encore quelques dizaines de milliers d'années, ils étaient les hôtes de nos régions de manière vraiment extrêmement bien implantée. Donc le plus commun et celui qui a résisté à tous ces filtres, c'est le cerf élaphe, qui est tout à fait identique à ce que l'on a actuellement. Le daim, qui était aussi un animal très courant pendant les périodes très tempérées, les maximums interglaciaires, qui a disparu de nos régions et donc qui a été réimplanté aux périodes historiques. Et puis donc les animaux, je dirais un petit peu plus rares, comme le macaque, hein, qui était le deuxième primate présent pendant les périodes tempérées, qui disparaît, je dirais, au début des occupations néandertaliennes en Europe globale, sauf que à Gibraltar, là où on va retrouver encore des occupations néandertaliennes, il existe encore. Hein. Donc ça, c'est un témoignage de l'occupation, de l'extension de ces macaques, adaptés plutôt aux paysages tempérés et boisés, qui étaient donc relativement rares pour des raisons sitaphonomiques, mais enfin donc présents qu'on rencontre dans certains gisements. L'éléphant de forêt, donc, qui ressemble un petit peu à un éléphant d'Afrique actuel. Oups, décidément, hop. Voilà, l'auroch, qui est un animal très courant, l'ancêtre de nos bovidés domestiques, qui est vraiment un des animaux les plus chassés pendant les périodes tempérées par les Néandertaliens en particulier, que l'on soit dans le nord ou dans le sud de la France ou de l'Europe. Vous avez deux types de rhinocéros, ici le rhinocéros de prairie, et vous avez un rhinocéros bien plus gros qui s'appelle le rhinocéros de forêt, qui atteint presque la taille d'un éléphant, donc qui est un animal extrêmement massif, mais qu'on retrouve quand même dans certains gisements. Le sanglier, voilà, qui est avec le cerf et le chevreuil, un des animaux qui a pu persister, qui est très rare pendant les périodes pléistocènes par rapport à ce qu'on connaîtrait, ce qu'on connaît depuis le début de l'Holocène, de notre interglaciaire, où il va pulluler dès le début de développement de la forêt avec le cerf. Mais pendant le pléistocène, il est toujours très rare. Hein, donc il y a peut-être des phénomènes de compétition avec les autres animaux. En tout cas, c'est un animal présent, mais pas si important que ce que l'on a, hein, par rapport aux rhinocéros, aux aurochs et l'hippopotame. En effet, l'hippopotame, pendant les périodes tempérées, on va le retrouver dans quasiment toutes, quand on a la chance d'en avoir, toutes les grandes rivières européennes, en France, la Seine, par exemple, la Somme, la Tamise, etc., en Allemagne aussi, le Rhin. Et donc c'est un animal vraiment courant pendant les interglaciaires pléistocènes. Le pendant de ces animaux, c'est les faunes que l'on va rencontrer pendant les périodes glaciaires. Glaciaire, encore une fois, c'est les périodes de transition avec le début de développement de la steppe et puis les périodes, je dirais, froides, mais pas les maximums de froid, où là, on a les pergélisols, on a les permafrosts, donc les plantes ne poussent plus, donc il n'y a plus rien à manger pour les herbivores. Et de fait, on observe, en particulier dans les zones plus septentrionales de l'Europe, un désert, cette fois-ci, désert glacé, entre guillemets. Mais là, il n'y a plus personne, ni animaux, ni végétaux, et aucun néandertalien pour être présent. Et ceci explique en partie donc ces trous que l'on observe et donc un refuge plus méridional ou une disparition, ce qui semble être en effet le cas. On perd des traditions entre guillemets culturelles, etc. Donc il y a un certain nombre de signaux qui nous indiquent qu'il y a en effet plutôt une disparition de certains groupes néandertaliens, alors que les animaux peuvent éventuellement migrer, disparaître ou évoluer. Là aussi, suivant les espèces, chacun va avoir son scénario. Donc voici les formes glaciaires tout à fait typiques. Alors on va commencer par l'emblème, hein, de cette steppe à mammouth avec le mammouth laineux. J'insiste bien parce qu'il y a plusieurs mammouths ancestraux à celui-ci qui n'est pas du tout laineux. Le mammouth est né en Afrique, en pleine zone tropicale. Hein, donc nous, on a affaire au dernier rejeton entre guillemets de la lignée qui s'est donc complètement adapté à des paysages steppiques, à des périodes froides. Et donc lui, c'est vraiment le super équipement également, sur lequel j'insiste pas trop, physiologique et anatomique, pour pouvoir perdurer dans les périodes même très froides. Et puis tous ces petits compagnons de route, tous ces gros compagnons de route, comme le rhinocéros laineux également, le renne, le bison des steppes, et les chevaux des steppes également, plus des... Alors ça, ce sont vraiment le tronc commun des animaux qu'on va rencontrer de manière systématique, comme vous l'avez vu, de la Bretagne jusqu'en Amérique du Nord, en passant par le sud dans l'Angleterre, le nord de la France, jusqu'au nord de l'Italie ou d'Espagne. Donc ça, c'est vraiment une grande unité, avec parfois des petites différences biogéographiques, mais très, très faibles. Et puis, donc, il y a deux animaux qui sont complémentaires, que l'on voit de manière très rare dans nos cortèges fauniques, mais de temps en temps, on arrive à en voir, c'est le bœuf musqué et l'antilope saïga, donc des animaux qui existent encore actuellement, qui sont parfois présents pendant les maximums de froid, surtout dans les zones plutôt du sud de l'Europe. Et puis, bien sûr, vous avez les animaux ubiquistes, certains herbivores et, bien sûr, tous les carnivores. Donc, vous avez ici, alors, c'est un âne qui est représenté, mais en fait, il existe pendant les périodes glaciaires et interglaciaires un petit cheval, un équidé qui a disparu sans descendance, qu'on appelle l'Equus hydruntinus, qui a été décrit en Italie pour la première fois, qui est qu'on appelle l'hydrantin, si on veut donner un nom vernaculaire à cet animal. Donc, lui, il va être plutôt adapté à des paysages plutôt découverts, plutôt secs, mais on va le rencontrer indépendamment en période tempérée. On en a dans le nord de la France pendant toutes nos interglaciaires, mais également en période froide, en Crimée, donc dans des sites à néandertaliens, il va faire l'objet d'une chasse intensive dans certains sites en pleine période glaciaire. Donc c'est un animal ubiquiste qui va être donc un mauvais marqueur écologique. Et donc vous avez certains noms comme ça, le cerf mégacéros, le très grand cerf, qui pouvait atteindre 2 mètres au garrot avec des bois d'envergure pour les grands mâles. Pour les grands mâles, seuls les mâles portaient des bois chez eux, mais enfin pour les très grands individus mâles, des bois qui pouvaient atteindre au maximum 3 mètres 50 d'envergure. Donc lui, par contre, on voit tout de suite le facteur limitant, c'est les forêts denses, les espaces denses, donc animal d'espace découvert, prairie ou steppe. Et puis tous les carnivores, eux, quel que soit l'herbivore présent, tant qu'il y a de la viande à manger, ça ne les dérange pas. Même si parfois on peut avoir des spécificités comme ici, alors ça c'est pas un chat sauvage, mais enfin c'est le chat sauvage est plutôt période tempérée, même si on peut en trouver dans d'autres phases. Les ours des cavernes, pareil, ubiquiste, le loup ubiquiste, le félin à dents de sabre ubiquiste, hyène, pareil, lion des cavernes, même si il existe plutôt dans les espaces découverts, le lion des steppes, comme on l'appelle maintenant, lui, pareil, ubiquiste. On va le rencontrer pendant les périodes tempérées ou pendant les périodes froides. Alors là, vous ne voyez pas l'échelle, mais pour le lion des cavernes, c'est 2 mètres au garrot, un animal particulièrement le super prédateur des temps pléistocènes. Là, on ne rentre pas dans le détail, juste pour vous montrer une partie seulement de la richesse que vous aviez vue tout à l'heure, par groupe zoologique, et puis depuis, vous avez ici le listing des 16 isotopiques, depuis les 1 million d'années environ jusqu'à stade isotopique 2 puis le 1, ce serait ici. Et c'est pour vous montrer uniquement un échantillon de ce qu'on a, donc on a souvent des gisements, on a une série faunique extrêmement importante avec une diversité d'animaux qui va être très utile pour nous permettre de reconstituer à la fois les paysages et de souvent dater les niveaux des gisements dans lesquels on retrouve nos industries lithiques et puis parfois nos restes humains. Donc ça, c'est un point important aussi, je vous le disais tout à l'heure, on est au sein d'un milieu extrêmement riche, donc les Néandertaliens vivaient au milieu de garde-manger de grands animaux, et ça, c'est aussi un point majeur quand on va parler de survie, où on a des images un peu d'individus, comme on le voit dans la littérature, dans les dessins animés, le cinéma, où on voit des hommes vêtus de peau de bête dans les grottes, tremblotant à la merci du froid, des carnivores, etc. Alors en fait, quand on étudie maintenant depuis de très nombreuses années les assemblages fauniques, on se rend compte qu'on a affaire à des êtres humains, néandertaliens, mais humains entre guillemets, parfaitement adaptés à tout leur milieu et à tout leur territoire, comme vous verrez par la suite pour quelques exemples. Quel que soit le climat, quelle que soit la faune à laquelle ils ont affaire. Je vous parlais des adaptations écologiques, mais on est capable, à partir des animaux, de dire dans quel paysage on se retrouve. Là, c'est juste quelques exemples, il y a beaucoup de méthodologies que l'on utilise. Ici, simplement, chaque animal va avoir, par exemple, un porte-tête ou des ustensiles particuliers, mais si simplement le porte-tête nous permet de voir, si vous êtes un mammouth, un bison des steppes, une antilope, un rhinocéros laineux, un élan, etc., vous allez avoir accès ou être plus adapté à différentes strates de végétaux, donc vous allez être potentiellement plus apte à être présent, par exemple ici dans les zones steppiques, vous avez des graminées ou des biotopes un petit peu diversifiés, mais pas forcément des végétaux à très grande hauteur, comme ce qu'on aura dans les périodes tempérées. Et vous avez ici donc une répartition des animaux, avec parfois des, je vous parle des animaux ubiquistes, bon, vous allez avoir par exemple le cerf, où on peut le retrouver dans des espaces assez diversifiés, même actuellement on peut le retrouver dans des zones de taïga, de steppe ou de forêt tempérée, donc c'est parfois un bon marqueur écologique, parfois ça ne l'est moins, donc il faut aussi raisonner en termes non pas d'une espèce, même si parfois ça l'est, mais d'association faunique, hein, c'est vraiment le terme important. Et donc vous voyez, on est capable de reconstituer, enfin de proposer, soyons quand même honnêtes et humbles, de proposer des reconstitutions en tant que paléontologue, qu'ensuite, bien sûr, on va s'empresser de comparer avec ce que nous proposent nos collègues qui travaillent sur les pollens, qui travaillent sur les mollusques, qui travaillent sur les rongeurs, nos collègues qui étudient la stratigraphie, les modes de dépôt, etc. Et on va essayer donc d'arriver à une convergence pour la reconstitution des paysages qu'ont connus les Néandertaliens, d'où proviennent les ossements des animaux identifiés. Et comment on procède ? Par exemple, une autre méthodologie, hein, donc vous avez le fossile, ici du rhinocéros de prairie. Et donc ça nous permet d'estimer l'adaptation écologique. Donc là, c'est un milieu de prairie, période tempérée. Le roc, ici un crâne et donc un animal qui est plutôt de période tempérée et d'espace découvert. Le cerf, l'homme, alors là c'est Raon, mais c'est un crâne néandertalien. Donc Raon, c'est plutôt sapiens, mais enfin, c'était pour faire un petit appel. Et donc vous avez une possibilité de regrouper les animaux par adaptation écologique. C'est boisé, on va dire ouvert de type prairie, en simplifiant beaucoup. Et puis, ouvert de type arctique, c'est cette toundra, donc cette steppe à mammouth des périodes froides. Et donc, cette méthodologie permet très vite de classer et de voir immédiatement, quand on est dans des milieux très, très contrastés, à qui on a affaire, entre guillemets, ou dans quel milieu vivaient nos non-néandertaliens. Vous avez ici l'exemple de Biache-Saint-Vaast que je vous présenterai tout à l'heure, donc en contexte interglaciaire, pendant le stade isotopique 7, vers 230-240 000 ans. Et vous avez donc le développement extrêmement important de la forêt, hein, plus de 60% du paysage, indiqué par les animaux adaptés à consommer des végétaux de la forêt. Des espaces ouverts de type non-arctique, la prairie. Donc vous voyez, vous avez un paysage quand même semi-fermé, mais pas totalement fermé. Et puis ouvert arctique zéro pour un épisode tempéré. Et donc ça, c'est vraiment la constante qu'on va observer pendant tous nos paysages pléistocènes, sauf parfois, vous le verrez dans le site éhémien de Kaour, qui vous a été mentionné tout à l'heure, où on a un développement bien plus important de la forêt parce qu'on est à l'optimum climatique de l'éhémien, donc il va faire très chaud, et malgré tout, on aura toujours cette espèce indiquant de la prairie. Le pendant glaciaire à Beauvais, qui vous a été mentionné, donc on est en pleine steppe à mammouth, une période relativement froide, hein, vers 55-60 000 ans, donc on est juste après le stade isotopique 4 qui était assez froid. Immédiatement, donc on était là en contexte très froid, donc il n'y a eu pas du tout de possibilité de développement, pergélisol, mais dès que les conditions redeviennent non pas clémentes, on reste en période froide, mais permettent l'apparition de la steppe. Donc en climat continental. La Manche est encore disparue, hein, donc on est vraiment dans une période, une zone périglaciaire. Et bien, assez vite, donc, les Néandertaliens vont recoloniser en suivant les animaux, donc en suivant ces animaux de la steppe à mammouth. Et on va avoir cette fois-ci 0% d'espèces indiquant un paysage forestier. Les espaces ouverts de type prairie, là, en fait, on a affaire à des animaux qui sont un peu ambigus, difficiles à classer, mais surtout, c'est important, donc, c'est qu'on a affaire aussi à des animaux de type ouvert arctique, en particulier le renne. Et de toute façon, le paysage est à 100% ouvert, donc on a vraiment une différence de milieu extrêmement importante quand on est en période interglaciaire ou en période glaciaire, avec, bien entendu, comme ça a été mentionné, toutes les phases de transition qu'il peut y avoir, qui peuvent amener parfois des faunes mixtes qui vont être plus difficiles à interpréter, qui vont être plus faciles à interpréter dans les zones boréales. Hein, dans le nord de la France, là où je travaille, on a souvent des alternances assez rapides, des changements de faune très rapides, avec très très peu de mélange par rapport aux collègues qui travaillent dans les zones plus méditerranéennes, où là, on a des phénomènes de zones refuge, et on va avoir des mélanges de faunes, par exemple des faunes tempérées pendant les périodes froides, dans le sud de la France. Hein. Donc ça, c'est un point majeur aussi, ces différences qui vous ont été mentionnées de biogéographiques, dans lesquelles, bien sûr, les Néandertaliens vont devoir, entre guillemets, faire comme les animaux, s'adapter, migrer ou disparaître. Voilà, donc là, on ne va pas rentrer dans le détail. C'est une méthode de détermination des paysages sous forme d'un diagramme. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une relation droite de type Y égale AX plus B, très simple, dans lequel X, c'est la surface de la première molaire inférieure de votre animal. Ça peut sembler étrange, mais il y a une étroite corrélation entre la masse, le poids de l'animal, qui marche très très bien et qui permet, à partir donc d'une série dentaire que vous trouvez dans votre gisement, ça vous permet de reconstituer la masse de votre animal, donc d'avoir une idée de sa taille, de sa masse, de son poids. Alors ça, c'est pas négligeable quand on a affaire à des gros animaux, des animaux qui ont disparu. Et en fait, quand on utilise cette méthodologie pour reconstituer les paysages, eh bien, on arrive à ce type. Donc on passe en logarithme, bien sûr, parce que sinon on aurait une différence de taille entre l'éléphant et la muséraigne, puisqu'on utilise aussi tous les petits animaux qui seraient bien trop importantes. Mais en passant en logarithme, on lisse ces différences. On arrive à une échelle de 1 à 16. Et ça permet d'établir ce type de droite. Hein. Donc vous avez ici les plus gros animaux et les plus petits. Et vous les classez par ordre décroissant de masse, et ça vous donne une courbe avec parfois des ouvertures, et puis une pente particulière. Donc là, c'est Biache en contexte tempéré, et toujours Beauvais en contexte glaciaire. Vous voyez donc le point marquant, une pente très faible ici en période tempérée, très importante en période glaciaire, et puis cette ouverture ici qui correspond aux animaux de taille moyenne qui sont absents dans les zones glaciaires, dans cette steppe à mammouth. Et quand on regarde la grille de lecture des scénogrammes, il y a quatre grands types de scénogrammes, on voit que là, pour les périodes tempérées, pour Biache, on est dans un milieu climat humide, mais avec quand même une petite ouverture qui correspond à l'ouverture des prairies que vous avez vues précédemment. Donc il y a une bonne convergence des méthodologies qui nous permettent d'être très assurés quand on va dire l'homme de Nadartal, de ce site, de Biache, vivait dans tel type de paysage. On ne l'invente pas ou ce n'est pas une vision que l'on a, c'est vraiment à partir de documents de proxy, comme on dit, d'éléments qui nous permettent de reconstituer ces paysages de manière parfois extrêmement précise. Et inversement, donc à Beauvais, vous avez ici donc un paysage et un climat très aride, avec une ouverture du milieu extrêmement importante. Vous voyez ici une pente très importante, et puis cette ouverture qu'on rencontre ici. Donc là, on est vraiment dans la steppe à mammouth, climat continental très sec. Donc vous voyez que quand vous verrez maintenant des reconstitutions récentes, entre guillemets, de paysages, ou des reconstitutions d'artistes, c'est basé sur ce genre de travaux donc, qui nous permettent d'affiner vraiment très précisément les milieux dans lesquels évoluaient les différents hominidés présents depuis des centaines de milliers d'années, mais en particulier les Néandertaliens et en Europe. On va aller assez vite de manière à ne pas perdre. Voilà, en effet. Ouais. Donc on va passer, donc là c'était juste pour vous montrer qu'il y a une régulation des milieux par les hommes, par les herbivores, avec peut-être le maintien de ces zones herbacées, des prairies en particulier, régulation par le climat, mais aussi régulation par les prédateurs, et l'homme, on dirait de Néandertal en particulier, est un prédateur. On attaque maintenant dans le vif du sujet, avec un point important à relier, donc on va tourner autour de... Donc, tous les préhistoriens actuellement travaillent pour reconstituer le mode de subsistance, l'alimentation, le comportement, c'est un des points dans lesquels on peut arriver, avec trois, je dirais, lignes d'analyse, l'analyse du monde minéral, sur les collègues qui travaillent sur les industries lithiques, du monde animal, les archéozoologues, et puis le monde végétal, qui est un petit peu le parent pauvre de notre monde, pour des raisons de conservation, bien sûr, on a très peu d'outils ou d'armes en bois. Point important aussi, Néandertal, même s'il est proche de nous, il est anatomiquement différent. Je pense que là, vous avez dû suivre les cours, j'imagine, ou connaître ces adaptations spécifiques. Et en particulier, un point qui va nous intéresser, nous, archéozoologues, c'est cette musculature très importante et ces adaptations, en particulier du membre antérieur, capable donc d'avoir une puissance bien plus importante que celle de l'homme moderne, qui va lui permettre donc d'avoir une approche du monde animal particulière, en particulier pour la chasse, et aussi les activités de boucherie, la fracturation des os longs en particulier. Donc vous avez ici plusieurs témoignages de ces hommes qui sont présents en période tempérée ou en période interglaciaire, en vous rappelant encore une fois qu'ils avaient affaire à des gibiers, ça c'est le roc, taille moyenne des mâles qu'on rencontre dans nos gisements, c'est 2 mètres au garrot, mis par rapport à un néandertalien d'environ 1,60 m. Il faut relativiser les choses, donc il faut aussi voir que, ça c'est donc je vous rappelle, un des gibiers courants qu'on a rencontré dans nos gisements interglaciaires, ça sous-entend qu'un petit groupe de chasseurs avait dû donc réussir à battre un individu, mais donc on va rencontrer souvent plusieurs individus. Et donc il faut avoir une idée quand même donc, de ce qu'il y a derrière. Ça veut dire coordination, langage très probablement, une très bonne connaissance des animaux, de leur anatomie, de leur physiologie, de leur éthologie, et également bien sûr une très bonne connaissance du territoire dans lequel évoluaient ces hommes. D'un point de vue implantation, pour simplifier les choses, bien sûr, vous l'aviez déjà vu, mais entre un paysage forestier fermé avec des animaux qui ne sont plus du tout grégaires, mais avec des hordes ou des hardes limitées, donc vous avez une plus grande diversité, mais moins d'individus, À l'inverse, vous avez des paysages très découverts avec des animaux peut-être en moins grand nombre, mais qui sont extrêmement grégaires, avec des troupeaux, je vous ai mentionné de rennes, peut-être des dizaines ou des centaines de milliers d'individus, des bisons, des steppes, etc., des rhinocéros, des chevaux, des mammouths. Donc, rappelez-vous cette idée de garde-manger. Mais voilà, donc ça veut dire qu'en fonction des paysages, bah, les stratégies de chasse, d'acquisition ou de charognage, enfin d'acquisition de nourriture par les hommes vont être très variables. Et ce que nous montrent maintenant les données archéologiques depuis des décennies, et au moins depuis 400 000 ans, 300 000 ans, suivant que l'on fait faire apparaître le phylum néandertalien, c'est que à chaque fois, dans nos sites interglaciaires ou glaciaires, on va retrouver des hommes parfaitement adaptés à leur milieu, ce qui explique que souvent on qualifie ces hommes d'une part de plus grands chasseurs de tous les temps et d'hommes de tous les climats, parce que c'est vraiment le rendu que l'on a quand on fait une étude de tous ces gisements néandertaliens. Donc là, je passe, parce que c'est juste pour vous rappeler un petit peu qu'on a certains sites, surtout pendant le début, pendant les périodes tempérées, puis après, pendant les périodes froides, pour les sites néandertaliens. Une carte pour vous montrer aussi que là, vous avez vraiment un palimpseste des occupations interglaciaires et glaciaires, mais donc que la vraiment le lien climatique et le paysage est vraiment indéniablement lié aux variations des sites néandertaliens. Donc, on a vraiment des hommes chasseurs-cueilleurs nomades, donc complètement inféodés à leur milieu et au paysage. Je vous ai parlé pratiquement que de grands mammifères, mais simplement, sachez qu'il y a une certaine diversité chez les Néandertaliens, surtout les Néandertaliens les plus récents. Auparavant, donc, les premiers et les autres, c'est surtout des grands herbivores qui vont être chassés, mais pas uniquement, vous le verrez ensuite. Et on a, vers la fin des derniers gisements néandertaliens, donc une plus grande diversité, en particulier en Espagne. Ici, vous avez en particulier, c'est une phalange de phoques qui vient d'une grotte à Gibraltar, hein, donc un des derniers témoignages de présence humaine, présence néandertalienne, pardon. Et donc, ça vous montre que la diversification des sources alimentaires mammaliennes, en tout cas, était assez importante. En Espagne, on va aussi trouver pas une spécialisation, mais une orientation vers les animaux de petite taille, pas uniquement des mammifères, des tortues, des lézards, du poisson, des oiseaux, des lapins, etc. Donc on va avoir une plus grande diversité, peut-être liée à une nécessité d'avoir accès à d'autres sources de nourriture, puisqu'on va se retrouver assez vite en compétition avec les hommes modernes, et puis une période particulière. Voilà. Sinon, on va aller assez vite sur la présentation de certains gisements. Plutôt que de vous faire une étude globale de toutes les facettes ou les unicités des comportements néandertaliens en fonction du temps et de l'espace, je vais prendre en fait deux gros exemples et puis deux petits encadrés qui vont vous montrer cette facette assez diversifiée du comportement néandertalien par rapport à la grande faune, donc par rapport à l'alimentation, mais pas uniquement, vous verrez. Et en fait, les racines néandertaliennes commencent même assez loin, puisque dès 300 000 ans à peu près, on a un site donc à Cagny-l'Épinette, dans la vallée de la Somme, ici, donc en période tempérée, stade isotopique 9. Et alors, on n'a pas trouvé de restes humains, malheureusement. On a une industrie qui est encore acheuléenne, avec des bifaces, mais on commence déjà à voir apparaître des traits, qu'on voit en particulier au niveau de la gestion des animaux, qui vont être présents ensuite dans nos sites néandertaliens, et en particulier ces traits. Donc là, vous avez une liste phonique, c'est surtout l'auroch et le cerf qui sont présents, hein, donc des choses que vous avez déjà entendues. Et en fait, ce qu'on va voir apparaître, c'est une première utilisation de l'os en tant qu'industrie. Hein. L'homme ne va plus se contenter d'utiliser la matière première lithique, le silex essentiellement, qui est la matière la plus utilisée, en particulier dans la partie nord de la France. Ici, il va étudier donc les ossements pour s'en servir comme ce qu'on appelle nous des retouchoirs ou des compresseurs, donc une industrie en os peu élaborée. En fait, les ossements, c'est l'objet de beaucoup d'études. Et donc, les ossements vont servir, par exemple, à réaffûter les outils, les racloirs. Vous faites des activités de boucherie, au bout d'un moment, votre outil ne coupe plus. Comme nous, on a un petit peu une pierre aiguisée, les hommes vont prendre une matière plus tendre que le silex, en l'occurrence, soit les boîtes cervidées, soit les ossements. Et vous allez avoir ici une plage de stigmates, vous voyez, des petits enlèvements qui correspondent à une percussion sur l'industrie lithique, le silex. Vous avez ici un autre exemple qui est très intéressant, c'est pour ça que je vous disais, on entre de plein pied dans le monde néandertalien dès 300 000 ans. Vous avez ici donc ce qu'au début on appelait des billots, hein, des supports de travail, qui en fait, avec l'expérimentation et l'étude précise des stigmates, ont montré qu'on avait affaire vraiment à des percuteurs. Donc ce sont des extrémités articulaires d'humérus, de chevaux ou d'auroch. Et donc ça, ça a 300 000 ans, et ça, c'est un dessin d'un site extrêmement important qui était identifié dès le début du XXe siècle, l'Aquina, avec donc des... Cette fois-ci, on est en période tempérée, en période glaciaire, c'est pas de l'auroch, c'est du bison des steppes, mais vous voyez, même style de stigmate, là, on est vers la fin du monde néandertalien, presque 300 000 ans plus tard, 250 000 ans, en tout cas plus tard, et vous avez exactement le même type de stigmate, donc c'est assez incroyable de voir cette persistance des choses, et ce phénomène va disparaître ensuite. Chez les hommes modernes, on n'aura plus cette chose de manière si importante. Les retouchoirs sont toujours présents, mais pas forcément les mêmes types de supports et pas le même type d'utilisation. Un site assez important, puisqu'il est le début vraiment du monde néandertalien. Et là, on a la chance, donc à Biache-Saint-Vaast, dans le Pas-de-Calais, vers 230-240 000 ans. Donc, on est le début du stade des isotopiques 7, en période très tempérée. On a eu la chance de retrouver deux crânes de néandertaliens parmi plus de 220 000 restes animaux. Et en fait, donc, vous avez ici la stratigraphie assez complexe, et donc c'est le niveau bien daté, vers 240 000 ans. Donc on est vraiment au début de la période tempérée, qui correspond, le stade isotopique 7, à une espèce, pas de révolution, mais de, on voit qu'il y a un cran qui vient de passer. On a beaucoup plus de sites qui apparaissent, on a beaucoup plus d'implantations humaines, d'un néandertalien uniquement, bien sûr, en tout cas en Europe. Et on sent qu'il y a quelque chose, il y a un palier qui vient de passer, un climat particulier, une nouvelle association de faune qui se crée. Et puis, bien sûr, le développement de ces néandertaliens qui vont apparaître et être très vite présents dans le milieu. Donc, une faune dominée par l'auroch, mais aussi, ça c'est une facette assez intéressante, la deuxième espèce chassée à Biache, c'est l'ours brun, qui n'est pas du tout un animal intrusif, un carnivore prédateur. Il a été chassé, il y a des marques de découpe dessus, comme vous en verrez rapidement ensuite, la fracturation des olons. Il est mêlé au reste de boucherie des herbivores, donc c'est assez intéressant. Et les courbes de mortalité des animaux ne sont absolument pas des courbes de mortalité naturelle. Vous avez ici pour les orques des jeunes adultes et des adultes, alors que normalement une mortalité naturelle, on aurait beaucoup de jeunes et puis des adultes plus âgés. Donc là, il y a vraiment une prédation, une activité qui a été faite, en l'occurrence par l'homme, et que l'on retrouve chez l'ours brun ici, jeune adulte et adulte. Alors par contre, sur le rhinocéros de prairie, qui est la troisième espèce présente, vous avez une modalité totalement différente liée aussi à la taille de l'animal et à la dangerosité. Pour l'abattre. Vous avez ici, je ne sais pas si on va bien les voir, des ossements d'ours brun. Ici, c'est un tibia avec des marques de découpe pour retirer la viande. Ici, des métapodiens pour retirer en fait ce que l'on pense la fourrure. Ça, c'est assez important. Dès que l'homme de Néandertal arrive et est identifié vers donc 250 000 ans, 240 000 ans, il va utiliser tout de suite un carnivore comme donnée alimentaire, mais aussi comme utilisation non alimentaire. Ça, c'est une dimension assez intéressante. Donc, il va récupérer la fourrure. Vous verrez ensuite que c'est le cas. Mais aussi, un autre ours qui est présent, c'est l'ancêtre de l'ours des cavernes, aussi des petites stries, des coupes, qu'on observe généralement au niveau du crâne, là où la peau est directement attenante aux ossements, et donc aussi au niveau des phalanges. L'industrie osseuse est extrêmement importante. On a à Biache une des plus grandes collections que l'on connaisse actuellement en Europe, avec plus de 330 de ces objets qu'on appelle des retouchoirs, donc de l'industrie en os, des os à stigmates. Vous avez ici quelques exemples assez intéressants, donc avec des stries de découpe, vous voyez, des superbes stries, la plage de stigmates qui correspond à cette zone de percussion de l'industrie. Ici, donc un autre exemple, vous voyez, donc c'est systématique. Les os ont été fracturés de manière fraîche, donc on pense que l'activité de boucherie pour récupérer la viande a été faite. Ensuite, les os ont été fracturés pour récupérer la moelle. Et puis, l'homme a récupéré des fragments d'os qui traînaient pour réaffûter ces silex pour qu'ils soient plus efficaces pour découper. Donc, vous voyez aussi souvent des stries de raclage associées pour nettoyer. En fait, sur un os frais, vous avez un tissu qu'on appelle le périoste, qui est un tissu qui permet la croissance de l'os, sa protection et sa réparation en cas de dommage. Et en fait, ce tissu sur les os frais, donc c'est aussi intéressant, ça veut dire que l'os était fracturé quand il était frais ou travaillé quand il était frais, c'est-à-dire l'animal venait probablement d'être abattu. Et donc, il faut gratter ce périos, donc avec un racloir en silex, et ça va vous laisser des traces de raclage ici, vous voyez, des longues stries longitudinales qui sont différentes des stries que vous avez vues tout à l'heure perpendiculaires au grand axe, qui sont plutôt des stries de découpe des mâches charnues, des muscles, donc de la viande. Et donc, on a tous ces témoignages sur les ossements qui nous permettent de reconstituer, vous voyez, un autre exemple. Et donc aussi, au niveau de la répartition spatiale des ossements, la répartition anatomique des ossements, on identifie donc les zones alimentaires qui sont ciblées, les zones où on a plus d'ossements, parce que les os sont fracturés, sont en jaune, c'est vraiment les zones les plus alimentairement intéressantes, et puis pour l'ours, la partie crânienne, et puis les phalanges, correspondant à un travail de recherche non alimentaire, en l'occurrence la fourrure. Et vous avez ici donc, ce qu'on appelle une chaîne opératoire, ce que font généralement nos collègues lithiciens de manière récurrente. Nous, on commence à le faire un petit peu dans une chaîne opératoire des activités de boucherie pour nos sites. Ça a été fait en collaboration avec mon collègue David Hérisson de l'INRAP, et donc lui a travaillé sur l'industrie lithique, moi donc sur la faune, et on a pu comme ça mêler à la fois l'industrie, ici, et la faune. Et en l'occurrence, je vous parlais de récupération de la faune, vous avez ici des crânes, enfin un fragment de crâne d'ours des cavernes, d'ours bruns. Je ne sais pas si vous voyez ici ces stries longitudinales qui correspondent à la découpe de la fourrure attenante aux pattes pour récupérer un maximum de fourrure. Et donc ça, vous avez toute cette chaîne opératoire ici, dépouillage, donc retirer la peau, dépeçage, la mise en pièces d'animaux. Ici, donc, le décharnement, récupération de la viande avec ces stries que l'on observe, les outils. Hein, donc il y a des stries parfois très intéressantes puisqu'on a des petites irrégularités que l'on retrouve. Donc c'est vraiment... On retrouve presque le geste des hommes. La récupération de la moelle, vous fracturez l'os pour récupérer la moelle, qui est un tissu lipidique extrêmement nourrissant. Donc les hommes, même depuis les australopithèques, hein, ça c'est pas caractéristique des Néandertaliens, donc les hommes vont récupérer. Donc ça vous produit des choses très intéressantes, des éclats avec le point d'impact du percuteur, le galet, qui a permis à ouvrir l'os, et des petits éclats qui sont produits, donc qui permettent de bien identifier ces activités. Et puis parfois des pièces qui sont vraiment extrêmement travaillées. Et puis ces retouchoirs qui correspondent presque à la fin de l'activité avec d'autres activités à but non alimentaire, en particulier là, le raffutage de ces racloirs qui servent aux activités de boucherie. Voilà. On va passer très vite à Ranville pour vous montrer juste un site un peu plus récent que Biache en Normandie. On est en période tempérée. Là, par contre, on a beaucoup moins de biaches, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est. Je vous l'avais dit, c'est plus de 20 000 restes osseux déterminés, mais plus de 220 000 pièces non déterminables, parce que c'est des petits fragments. Là, à Ranville, on a 700 pièces. Et, par exemple, pour l'animal emblématique de ce site, c'est l'éléphant de forêt. Il y a 130 pièces, mais qui correspondent à un seul individu. Alors, ça nous a obligés un petit peu à avoir un scénario d'interprétation d'un site où on a retrouvé de l'industrie néandertalienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment expliquer cette diversité? Alors qu'avec, on a du cerf, on a nos aurochs aussi, en petite quantité, qui, avec une conservation anatomique qui indique qu'on a affaire à des os qui ont été ramenés. Vous avez ici donc des os de cerf ou d'aurochs avec cette fracturation. On n'a malheureusement pas de stries de découpe, donc on n'a pas pu aller plus loin. Mais enfin, on voit qu'on a une fracturation pour récupérer la moelle. Et on imagine donc qu'il y a les mêmes scénarios alimentaires que ce que l'on a vu précédemment pour Biache, par exemple. Enfin, voilà, un tibia de roc fracturé pour accéder à la moelle, donc là, il n'y a aucun problème. Et puis, l'éléphant, ça c'était, donc rappelez-vous, un seul individu, on a trouvé une défense, une mandibule, des fragments ou des éléments de vertèbres, de côte, le bassin, et aucun élément ni du crâne, pas de dent supérieure, alors qu'on trouve la mandibule quasiment intacte, et surtout aucun élément des pattes. Et ça, donc, ça nous a amené à interpréter ça en fonction d'autres gisements pléistocènes, mais aussi de comparatifs avec des comportements alimentaires actuels de populations qui vivent en contact avec les éléphants d'Afrique actuels. Donc même si on est dans les milieux, dans des contextes totalement différents d'un point de vue climatique, et puis on a affaire à une autre espèce, Homo sapiens, et non plus Homo neanderthalensis, là en fait on s'est rendu compte visiblement, donc on a affaire non pas à une chasse à l'animal, mais peut-être à un charognage. Donc les hommes ont emporté les parties les plus intéressantes d'un point de vue alimentaire, les pattes. Donc on est sur un site, l'animal, imaginez un éléphant qui meurt, une maladie pour... d'un problème physiologique. Et puis, les hommes passent, ils venaient de chasser quelques cerfs, quelques aurochs, ils ont des fragments qu'ils emmenaient peut-être vers leur lieu de campement, saisonnier, probablement. Et ils tombent sur un éléphant fraîchement mort, ils ne vont pas faire la fine bouche, ils vont récupérer les parties alimentairement intéressantes et les embarquer avec. Et donc, ça, c'est très important parce que ça nous permet de reconstituer, à la fois d'intégrer les comportements presque au jour le jour. Là, c'est une opération qui a duré peut-être une demi-journée tout au plus, et puis replacer ça dans un territoire bien plus large, ce qui vous a été présenté parfaitement bien par Jean-Jacques. Donc avec une opération initiale de chasse traditionnelle, auroch cerf, les hommes se déplacent sur leur territoire et tombent sur un cadavre de mammouth d'éléphant fraîchement mort. Ils récupèrent les parties alimentaires et repartent ensuite vers le site d'habitat, en laissant d'ailleurs peut-être des éléments qu'ils avaient récupéré d'aurochs et de cerfs, mais récupérer une patte d'éléphant, ça vaut peut-être mieux que de récupérer une patte de cerf d'un point de vue alimentaire. Donc ils laissent la patte de cerf et ils repartent avec les pattes d'éléphant. Donc on arrive parfois à aller très très loin dans la constitution des comportements des hommes néandertaliens, mais encore une fois, retenez bien, toujours totalement attenant à leur climat, au paysage et puis à la faune à laquelle ils sont invadés, tout ça dans une gestion territoriale extrêmement bien nette. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus vite. Voilà, donc on va finir avec Kaour. C'est un site extrêmement important parce qu'il a permis de renouveler, de confirmer les constats qu'on avait d'occupation des paysages et des périodes, puisque c'est un site, donc vous allez le voir, qui est en plein optima de dernière interglaciaire, les Émiens, vers 123 000 ans. Donc on est vraiment en plein dedans. Donc il faisait 2 à 4 degrés plus chaud qu'actuellement. Une zone très forestière, assez développée. Vous allez voir quand même avec des petits espaces de type prairie, encore présent, mais là, on a quand même une forêt bien plus importante, confirmée par les données des mollusques. Et donc, c'est une fouille qui a commencé en 2005, donc c'est l'INRAP, le CNRS, qui est à l'initiative de ces fouilles, et donc elle s'est arrêtée en 2010, et nous avons réussi à faire acheter le terrain cette année, et nous avons pu reprendre des fouilles en septembre, de manière pérenne, puisque c'était un site amené à être urbanisé, et donc on a réussi à mobiliser quand même la communauté de communes d'Abbeville pour pérenniser ce lieu qui s'avère être un lieu essentiel à tout point de vue, au niveau de l'intérêt, puisque ça nous montre qu'on a des Néandertaliens présents pendant l'optimum climatique, alors qu'habituellement on pensait que c'était plutôt les hommes du froid et qui étaient incapables de pouvoir vivre en pleine zone forestière, ce que quand même déjà un certain nombre de chercheurs mettaient en cause, en tout cas là, avec ce genre de gisement, on a pu démontrer le contraire. Donc vous avez ici un site qui est actuellement donc ce dôme de travertin, de tuf, développé, hein, comme vous l'a précisé Jean-Jacques, par des algues en croûtante. Hein, on a la craie tout en dessous, donc des sources ont permis donc de créer une véritable chape, non pas de plomb, mais de tuf, de travertin au-dessus du site. Sinon, il aurait été complètement lessivé, érodé par les phénomènes périglaciaires postérieurs, et comme beaucoup de sites, probablement aurait disparu. Là, on a cette chance. Donc, un milieu très carbonaté qui a évité la dissolution des ossements, et puis surtout une chape qui a permis la persistance du site. Vous avez ensuite une stratigraphie qui est géniale. Vous avez sur 30 cm, vous avez 4 niveaux d'occupation. Ce sont les niveaux les plus sombres ici que vous avez. Donc avec ce niveau principal là que vous avez mentionné tout à l'heure, ce niveau de tourbe compactée. En fait, les niveaux les plus sombres correspondent à des périodes où l'homme est présent, alors que ici, les périodes plus claires, c'est là où se développent les sources, les zones beaucoup plus difficiles, beaucoup trop humides. Hein. On n'a pas affaire à des amphibiens, mais bien des hommes qui aiment bien le milieu solide. Hein. Ils ne vivaient pas du tout dans les tourbières, mais au sommet ou au début de la formation. Hein. Et donc, en fait, on a des niveaux sans mélange de faune, donc 4 niveaux d'occupation dans lesquels on trouve de la faune et de l'industrie lithique en position primaire. Donc on a vraiment, quand on fouille, on retrouve le site tel que nous l'a laissé Néandertal en partant. Vous avez ici donc, voilà, la fougère, donc c'est développement, là c'est un petit roseau, hein, donc, qui s'est développé, et puis ces algues en croûtante ont développé, un petit peu comme les arbres, saisonnièrement, donc une série d'encroûtements calcaires qui a permis, non pas la préservation de la plante qui a disparu, mais de la forme en tout cas de la plante. Hein. Et puis vous avez cette stratigraphie donc très claire, et puis surtout cette datation 123 000 ans, plus ou moins environ 3 000 ans. C'est-à-dire, quelle que soit l'incertitude de datation, qui est assez, pour vous ça peut être plus ou moins 3 000 ans, c'est gigantesque, hein. Mais l'incertitude, ça nous fait du 126 jusqu'à 120 000 ans. C'est-à-dire, on reste totalement dans l'interglaciaire et émien, donc on est vraiment sûr qu'on est pendant cette période la plus tempérée, une des plus tempérées qu'ait connue l'Europe depuis plusieurs centaines de milliers d'années. Et les hommes sont là, et vous voyez ici un petit bestiaire des animaux, le cerf. Oups, le cerf, donc c'est l'animal le plus représenté, avec notre ami le daim, qui était mentionné, qui est une forme plutôt de période vraiment tempérée et interglaciaire, qui est rare pendant les périodes de transition, mais très bien développée à Kaour, puisque dans le dernier niveau, le plus chaud, il est même l'animal dominant. Donc on a vraiment une idée d'un paysage très forestier. Le chevreuil est présent, le rhinocéros de prairie, le roc, le sanglier, un cheval, mais ce n'est pas un cheval de steppe, c'est un cheval de prairie. Et puis, deux animaux qui sont là, le loup et l'ours brun. L'ours, on n'a pas d'éléments, mais le loup, vous allez voir qu'il y a des choses intéressantes. En tout cas, vous voyez une faune extrêmement bien cohérente, uniquement adaptée à des paysages en contexte climatique interglaciaire et dominée par la forêt, avec quand même des espaces de prairie. Donc ça, c'est aussi intéressant. On n'a pas affaire à une forêt dense, même si elle peut être relativement importante, à 80% de la forêt, c'est déjà pas mal, mais il reste quand même des espaces pour permettre la persistance de l'auroch et du rhinocéros de prairie, et probablement du cheval aussi, même si potentialité de survie de ces animaux en domaine forestier n'est pas à exclure non plus. Voilà, donc au niveau de, parce que je vous ai mentionné, le nombre de restes, cerfs et daims sont dominants de très très loin. Et ce qui est très important à Cahours, c'est que le bon état de conservation du matériel nous a permis de mettre en évidence un travail de boucherie incroyable. Je dis incroyable parce qu'on a presque tous nos olons sont fracturés. Hein. Vous avez environ actuellement 11 000 pièces d'identifiées à Cahours. Et vous avez ici donc une estimation minimale d'ailleurs d'environ 2500 os portant des marques anthropiques. Et quand on regarde comment s'est réparti ces marques, malheureusement très très peu de marques de découpe. Ça, c'est incroyable parce qu'on a pourtant du matériel très bien conservé et on n'a que 15 os sur les 2500 os avec des marques anthropiques qui ont des marques de découpe, de décharnement essentiellement, sauf une, vous allez voir, qui est assez incroyable et assez intéressante. Donc des os fracturés, donc on récupère la moelle et puis surtout une quantité d'os brûlés parce qu'on a identifié dans un niveau deux zones de combustion avec ces ossements. Alors, on passe très vite. Voilà une pièce très intéressante, c'est un radioluna de roc. Pour vous donner une idée, ça, c'est, je vous parlais tout à l'heure de l'orogue de 2 mètres au garrot. Ça, c'est un radius luna d'un grand mâle qui pouvait atteindre 2 mètres au garrot, donc qui était probablement sa dimension. Il a été abattu. Vous avez des stries de découpe ici au niveau de zone d'insertion musculaire. Et en plus, après, vous avez cette superbe fracturation avec une zone d'encoche ici, un point d'impact. Donc après avoir récupéré la viande, le Néandertal a fracturé l'os pour récupérer la moelle osseuse. Et vous avez fait quand même un boudin de moelle de cette dimension-là. Donc une quantité de nourriture extrêmement intéressante pour ces hommes-là. Voilà donc le type d'ossements qu'on retrouve de manière courante, des os qui présentent des points d'impact, ici c'est du cerf, donc pour l'ouverture des ossements, pour accéder à la moelle osseuse. Voilà, du cerf, donc il y a une autre pièce ici importante, des crânes aussi, avec beaucoup de bois de chute, mélangés avec des bois des animaux portant les bois, donc il y a des différences de saisonnalité, hein, les animaux, les cerfs perdant leur bois à des périodes différentes. Donc ça c'est en cours d'étude pour essayer de clarifier les choses. Voilà le cas. Aussi, des traces très intéressantes. On en a peu, mais quand elles sont présentes, elles sont très intéressantes. Vous avez ici une mandibule, partie basse d'une mandibule de cerf. Là, on les voit assez bien. Ce sont des stries de découpe et ils sont sur la partie interne de la mandibule, c'est-à-dire là où la langue est attachée par les ligaments. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a ici un témoignage de la récupération de la langue pour les cerfs. Et ceci est confirmé pour un os hyoïde, donc un os qui se situe sous le crâne, qui maintient aussi la langue. Et donc cet osioïde de roc présente, vous voyez, des petites stries de découpe. Donc on a aussi un témoignage de récupération de la langue chez nos néandertaliens à Cahours, donc au dernier interglaciaire. Donc une exploitation totale, intensive et extrêmement efficace de leurs ressources alimentaires en période tempérée. Donc là, vraiment, on a vraiment des hommes totalement adaptés à ces variations climatiques, ce qui nous fait vraiment confirmer que ce sont bien des hommes de tous les climats et le plus grand des chasseurs. Voilà. Et cet os que je vous ai mentionné tout à l'heure, c'est un os d'une patte avant de loup. Et vous avez ici, à cette partie-là, vous voyez des stries de découpe qui pourraient correspondre à une activité de récupération de la fourrure, comme pour l'ours brun à biache, au cycle glaciaire, enfin au cycle tempéré précédent. Donc là aussi, c'est intéressant, c'est que là aussi, le carnivore, le loup, qui est représenté par peut-être une dizaine de restes, est peut-être aussi un animal qui a servi de gibier, pas forcément pour la nourriture, mais peut-être pour les aspects non alimentaires, la fourrure en l'occurrence. Voilà. Et puis ces zones d'activité qu'on a pu mettre en évidence lors des fouilles par mon collègue Jean-Luc Locht. Et donc vous avez des zones, pour le niveau 4, hein, des zones de combustion auxquelles s'articulent les activités. Hein, donc on a vraiment la chance d'avoir pour ce niveau les choses en place, avec les zones de débitage de l'industrie lithique, les aires de boucherie, hein, là c'est un carré, vous voyez les os fracturés provenant de quelques ossements, des osselons de cerfs, et tout a été laissé sur place, donc ça c'est assez extraordinaire. Et puis aussi ces zones de foyers, alors qu'ils sont des foyers non aménagés. Hein, c'est vraiment des zones de rubéfaction du sol qu'on a pu mettre en évidence. Et quand on a tamisé les ossements provenant d'un mètre carré concerné par ce foyer, vous voyez, on a plus de 250 pièces osseuses avec différents degrés de combustion, de la plus simple, peu de temps passé dans un foyer peu intense, noir, jusqu'à des os très blancs, voire bleus, qui indiquent une calcination très importante dans des foyers qui ont duré de nombreuses heures à une très forte température. Donc il y a vraiment une activité qui se crée autour de ces foyers, mais on est en plein optimum climatique, donc les foyers n'ont rien à voir avec le froid. Voilà. Et puis donc là, c'est juste pour montrer, on arrive à aller très très loin dans l'identification des individus. Donc c'est une étudiante en thèse que j'encadre, qui est Noémie Sévèque, qui est en train d'établir les courbes d'abattage pour les différents niveaux de biache, entre le cerf, le daim, mais aussi les autres individus. Et puis surtout, donc, vous voyez, vous avez des différences suivant les niveaux entre les espèces, donc ça c'est très intéressant, il y a une différence, une adaptabilité des hommes en fonction de leur climat et du gibier présent. Et puis surtout, là c'est un des enjeux majeurs, d'arriver à saisonnaliser, donc là vraiment d'être au plus près, même si on arrive, comme vous l'avez vu dans certains cas, d'être au plus près vraiment de la présence humaine. Et là en l'occurrence, pour le niveau 4, hein, le niveau que je viens de vous présenter avec cette organisation de l'espace, on arrive à saisonnaliser pour une présence en juin et non pas pendant les autres périodes. Donc l'homme vient au début de la bonne saison, là où peut-être les animaux sont plus facilement abattables. Peut-être où, par exemple, c'est la période de mise bas des jeunes, donc vous avez les femelles qui ne sont pas forcément adaptées à se défendre ou à être capables de fuir, par exemple. Donc c'est un point majeur, c'est vraiment à déterminer. En tout cas, prenez bien en compte cet aspect saisonnier qui est très important, qui va être encore plus, même si je n'ai pas eu l'occasion, faute de temps, de l'évoquer pour les périodes glaciaires. Pendant les périodes glaciaires, on a un site à Avrincourt, qui a été fouillé par ma collègue Émilie Goval de l'INRAP, qui a permis de mettre en évidence pour les niveaux néandertaliens, à peu près contemporains de ceux de Beauvais, une occupation très courte en pédiglaciaire, mais qui est aussi corrélée avec le mois de juin. Et là, c'est très important parce que dans ces contextes pédiglaciaires, rappelez-vous, l'hiver, rien à manger, les herbivores migrent. Et là, dès le début du développement de la bonne saison, les graminées repoussent, les herbivores arrivent, et là, on a une occupation, donc à Avrincourt, en période froide pour les Néandertaliens, une occupation saisonnière très ponctuelle, hein, ça a duré peut-être une demi-journée, comme pour Ranville, ce qui montre que les hommes, en tout cas, sont extrêmement mobiles à l'échelle de la saison, et bien au-delà du cycle climatique de quelques milliers ou de plusieurs dizaines de milliers d'années. Voilà. Et puis, comme pour Ranville, on est capable de reconstituer les occupations. Alors ça, c'est l'évolution du plus ancien vers le plus récent du développement. Donc là, c'est au début, et ça se fait en deux temps, avec le développement de ce tuf ensuite. Hein, donc ça a permis la préservation du site. Et en fait, ce que l'on pense, c'est que le site de Cahour correspond à un site de boucherie. Donc c'est un site intermédiaire entre l'abattage des animaux, qui doit se faire au bord de la rivière, très probablement. Donc on vient travailler, faire les activités de boucherie dans une zone un petit peu plus sèche, plus habile, plus facile pour travailler. Et puis ensuite, eh bien, les hommes probablement partent vers leur campement saisonnier, mais en tout cas leur zone d'habitat qui est située peut-être quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres plus loin. Donc ça aussi c'est important, cette gestion du territoire qui semble totalement adaptée et totalement parfaite par nos prédécesseurs européens. Voilà, et j'en terminerai avec ces propos.